Il y a quelques semaines de cela, je vous avais apporté un message sur « Approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous ». Vous vous souvenez de ce message ? Je disais que si nous faisons quelques pas, Dieu fait un grand pas pour s'approcher de nous. Il nous fait grâce aussi. Ce matin, j'ai choisi une parole que nous connaissons bien. C'est le miracle de guérison d'un paralytique. Vous savez, c'est dans chapitre 2, dans Marc chapitre 2, c'est la guérison du paralytique qui est ramenée par les quatre brancardiers. C'est une histoire bien connue. C'est une histoire bien connue. Oui. J'avais cru que vous étiez endormi. Voilà, donc j'aimerais vous lire au verset 2. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Voilà, donc on voit ici Jésus qui, après avoir fait pas mal de tours à Capernaüm, et puis il a aussi prêché dans les contrées voisines, il est devenu très célèbre. Les gens le poursuivaient parce qu'ils ont vu des miracles se réaliser, ils ont vu un homme guéri qui avait un esprit impur, ils ont vu des personnes qui avaient de diverses maladies être guéries, ils ont vu aussi Jésus chasser les démons. Après avoir vu tous ces miracles, ils se sont dit, mais il doit être quelqu'un de très spécial. Et ils l'ont suivi, ils l'ont presque pourchassé pour entendre ce qu'il avait à dire. Et dans le chapitre 2, Marc chapitre 2, on voit cet événement où il est revenu à Capernaüm, donc après avoir guéri la belle-mère de Pierre, il est revenu à Capernaüm et on pense probablement qu'il est dans une maison, il est revenu à la maison de Pierre. D'ailleurs, à l'époque, une maison d'un pauvre, d'après les archéologues, une chambre principale, ou plutôt la pièce principale, fait à peu près 16 mètres carrés. Donc c'est très petit. Et on a découvert, bien sûr, aussi la maison de Pierre, et la pièce principale fait à peu près un peu plus de quarantaine de mètres carrés. Est-ce qu'on peut afficher la première image? Voilà, on ne voit pas très bien, mais voilà, ça c'est donc le vestige qui reste de la maison de Pierre. Et l'image suivante, voilà donc comment était faite la maison de Pierre. Les maisons en général de cette époque-là sont faites de pierres cimentées par de la boue, et puis au sol en terre battue, et puis au toit de branchages fixés dans l'argile. Donc c'est quand même ce genre de toit se crevasse vite et des trous peuvent être ouverts facilement. Voilà. Donc on voit. Je disais que il a. Je relis verset 2. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il y avait plein de personnes. Vous avez déjà vu le métro de Paris bondé dans les heures. On est cloîtrés comme des sardines en fait, surtout pendant la période des grèves. On est comme ça. Et vous savez qu'en Corée, il y a des pousseurs. Il y a des pousseurs. Au Japon aussi. Donc il y a des gens qui sont payés pour pousser des gens à entrer dans le métro, dans les heures de pointe. Et quand vous êtes dedans, vous avez du mal à respirer. Donc imaginez un petit peu dans la salle principale de la maison de Pierre où les gens étaient cloîtrés ou comme des sardines, en train de vouloir écouter la parole de Jésus. Et puis, il y a quatre hommes viennent avec un paralytique. Quatre hommes avec beaucoup de foi. Ils avaient tous la foi que ce Jésus, ils avaient déjà entendu que Jésus avait fait plein de miracles, donc ils vont vers celui qui a cette puissance de guérison. Mais ce qui est encore intéressant, c'est que, voilà, au verset 2, il est dit que L'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Et là, il leur annonçait la parole. Jésus avait fait plein de miracles, c'est vrai. Mais ce n'était pas ça son objectif. Son objectif de sa venue, c'était annoncer la parole et accomplir la volonté de Dieu. Annoncer la parole. Pour que les gens qui écoutent deviennent, entre guillemets, des chrétiens. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire chrétien ? Cette appellation a été donnée par les gens du monde, qu'en voyant les personnes qui entendaient l'enseignement de Jésus, ils ont dit, ce sont des chrétiens, des gens qui suivent le Christ. Hein ? Le Christ loin, le Sauveur, le Messie. D'ailleurs, avant de donner le nom de chrétien, vous savez comment on appelait les gens ? Les chrétiens ? Alors, dans Acte 9, il est dit, lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans, des partisans de la nouvelle doctrine. Nous sommes toujours des partisans de ceux qui suivent la doctrine de Jésus. Et donc, voilà l'événement, quatre brancardiers viennent avec le paralytique pour voir Jésus. Au verset 3, des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Au verset 4, comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Hein, comme je vous avais dit tout à l'heure, que le toit était facilement défectable. Et ces quatre brancardiers, ceux qui portaient ce paralytique, auraient pu faire le demi-tour en disant que tout est complet, on va retourner à la maison et puis on reviendra plus tard. Non. Ils ont pris le courage pour défaire le toit. Vous voyez là ? Donc ils ne pouvaient pas entrer, ils sont montés par le toit, ils ont défait le toit. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? Le courage, parce que pour défaire, ça veut dire que c'est casser un bien matériel d'une autre personne. On voit un petit peu beaucoup de gens qui ont été guéris suite à leur courage, suite à leur foi. On voit aussi, on peut comparer ça avec Bartimée, l'aveugle, qui a crié haut et fort pour que Jésus l'entende. On peut aussi voir aussi d'autres événements, comme juste avant, dans Marc 1, on voit un lépreux vint à lui. Vous savez, un lépreux est impur, considéré comme impur. Il ne pouvait pas s'approcher des autres personnes. Mais là, il va vers lui, il prend le courage, alors que la loi l'interdisait, et se jette à genoux, et il dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, en voyant son courage et en voyant aussi son humilité, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Et il a été guéri instantanément. Dieu a la puissance de guérison. Et surtout, Jésus a vu le cœur de cet homme. Et Jésus aussi, à ce moment-là, quand il a vu le paralytique, descendait du ciel, du toit, il a vu aussi la foi de ces personnes. Et là, au verset 5, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » La particularité dans cette phrase, c'est qu'il ne dit pas, comme à ce lépreux, il ne dit pas, « Je le veux, sois pur, sois guéri. » Il n'a pas dit ça. Il a dit, « Tes péchés sont pardonnés. » Pourquoi il a dit ça ? En fait, on voit ça au verset 10, l'explication pourquoi il a dit comme ça. Verset 10, il a dit, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Il a dit cette phrase pour que les gens voient que Jésus est Dieu. En fait, les scribes, en entendant « tes péchés sont pardonnés », étaient très en colère. Pourquoi ? Parce que pour les scribes, cette phrase était un blasphème. Vous savez que D'ailleurs, ils avaient raison de penser comme ça, parce que dans Exode, il est dit que tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Seul Dieu pouvait pardonner. Seul Dieu. Et dire ce genre de phrase était vraiment un grand blasphème. Il était même si on l'avait lynché tout de suite, ils avaient le droit. Alors, pour les scribes, donc, c'était un blasphème. Mais nous savons bien que Jésus avait tout à fait le droit, puisqu'il est le Fils de Dieu. D'ailleurs, tout à l'heure, tu as cité Esaïe, qui a aussi dit, il y a 700 ans, avant Jésus-Christ, que le Messie allait être le Prince de paix, mais aussi Dieu éternel. Celui qui allait venir était Dieu lui-même. Hein? Et Jésus montra ainsi qu'il était aussi Dieu. Au verset 8 et 9, Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au dedans d'eux, leur dit : Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Verset 9. Lequel est le plus aisé de dire au paralytique : Tes péchés sont pardonnés, ou de dire : Lève-toi, prends ton lit et marche ? Et il pose cette question parce qu'il savait ce qu'il pensait. Oui, Dieu sait très bien ce que nous pensons. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Hein? En tout cas, il a dit tout cela pour montrer la puissance de Dieu, mais aussi que Dieu avait cette puissance de pardonner le péché. Il est lui-même Dieu. Voilà. Et dans cette guérison, en tout cas, on voit bien qu'il y a la foi des personnes qui ont ramené les paralytiques. Est-ce que seules les personnes qui l'ont ramené avaient la foi, ou celui qui était aussi ramené avait la foi, à votre avis? Parce que là, il est dit, au verset 5, Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Leur foi. Tous ensemble? Ouais. Oui, bien sûr que c'est oui. Bien sûr, je pense que les amis avaient entendu aussi l'histoire de Jésus qui guérissait les gens. Ils avaient la foi en ce Jésus, mais aussi le paralytique. La preuve, j'ai une preuve. Vous savez, si on relit la phrase verset 5, il est dit « mon enfant, relation filiale ». Mon enfant, on devient enfant de Dieu que par la foi. Ça veut dire qu'il avait sûrement aussi la foi. Il dit souvent ça aussi aux autres personnes qui ont été guéries. Par exemple, quand Jésus guérit, malgré lui en tout cas, la femme atteinte d'une perte de sang. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus l'appelle et il lui dit, ma fille, relation filiale encore, ta foi t'a sauvée et va en paix. Hein, quand il y a cette appellation de mon enfant, ta fille, mon fils, enfin, nous sommes tous frères et sœurs, nous sommes tous enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des petits-enfants de Dieu, mais nous sommes tous enfants de Dieu. Hein? La foi, en tout cas, était bien, bien présente ici, en cette personne. Alors, qu'est-ce que c'est que la foi? C'est quoi la foi? Croire l'existence de Dieu? C'est pas seulement ça, n'est-ce pas? Croire l'existence de Dieu? Même le diable croit l'existence de Dieu, même le diable connaît Dieu. La croyance ne suffit pas. Il faut aussi une certaine confiance à cette personne. C'est ça aussi, avoir la foi. Les collégiens qui sont là, aujourd'hui il y a pas mal de personnes qui sont absentes parce qu'il y a le week-end flambeau, du coup les collégiens sont absents, mais les peu de collégiens qui sont là, à part mes filles et Esther, est-ce que vous croyez que lorsque vous êtes dans les difficultés, les parents seront présents à vos côtés? Oui, c'est ça. Hein? Pourquoi? Parce que vous faites confiance, n'est-ce pas, à vos parents. C'est normal. Oui, Dieu a... Le verset suivant, s'il te plaît. Oui, Dieu a un projet de paix et de malheur, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est ça en fait la foi, que Dieu a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Et lui faire confiance, oui, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi permet d'être agréable à Dieu. Faire confiance, c'est compter sur lui, s'appuyer sur lui, donner sa vie complètement et lui faire confiance. Est-ce que tu peux passer l'image suivante? Vous savez qui c'est? Non? Alors il s'appelle, c'est un Français, il s'appelle Jean-François Gravelet. Ça ne vous dit pas grand-chose? Rien. Alors, il n'était pas du tout connu, c'est un homme du 19e siècle, hein, donc c'est normal. Hein. Il s'appelle Charles Blondin, hein, alors qu'il s'appelait Jean-François Gravelet, il a choisi ce surnom, Charles Blondin. C'est un funambule, hein, un acrobate équilibriste qui marche sur une corde. Hein. Et il faisait partie des troupes, il était en France, ensuite il part aux États-Unis, il fait aussi des voyages au Canada, etc., etc. Et puis en 1859, il a eu une pensée de traverser la chute de Niagara, devant la chute de Niagara, devant les spectateurs. Donc il met une corde de 330 mètres, et puis devant 1200 personnes, voilà, vous voyez l'image, avec un bâton qui fait à peu près 10 mètres, donc il traverse cette chute de Niagara. Il fait plein de choses, il traverse tout seul, et puis il fait des sauts en arrière, il fait des sauts en avant, il fait plein de choses, il cuit un repas sur le... Il ramène des choses, il ramène une trottinette comme ça, et puis il fait sa cuisine. Il mange. Et puis, d'ailleurs, vous savez, à l'époque, 19e siècle, c'est pas comme aujourd'hui. On a la télé, on a plein de trucs, et ce genre de choses. On peut même regarder à la télé, donc on ne va pas avoir spécialement ce genre de spectacle. À l'époque, quand on faisait ça, c'était vraiment tout le monde venait le voir. Et puis, à chaque présentation, les gens étaient bondés, ils étaient vraiment... Puis là, un jour, donc il a fait toutes sortes de choses sur la corde, et puis un jour, il demande à la foule, « Est-ce que vous croyez encore aujourd'hui que je vais bien traverser cette corde ?» Enfin, cette chute de Niagara. Et les gens disent, « Amen !» Non, pas « Amen !» Ils disent, oui, je crois, oui, je crois. Vous êtes sûr? Oui, je crois. Vous avez vraiment la foi? Oui, je crois. Dans ce cas-là, est-ce que quelqu'un est prêt à monter sur mon dos pour que je puisse traverser? Et le silence total. Mais il y a un homme qui lève la main et il se met sur son dos. Et il traverse. Vous savez qui était cet homme? Non. C'était son agent, son manager de 10 ans. Il a vu son poulain traverser et faire plein de choses. Et donc, il avait la confiance totale de ce Charles Blondin. Et il se met sur lui pour traverser. L'histoire de la foi, c'est ça, un peu comme ça. Est-ce que nous avons vraiment la foi pour que Jésus marche à notre place aussi, dans les moments de difficulté? Est-ce que nous sommes prêts à donner toute notre vie? C'est pas juste vraiment... vous savez, le gars, là, quand il est mis sur Charles, enfin, c'est Jean-François, il lui a fait complètement confiance. Il fallait lui faire... Avec, je sais pas comment il devait se comporter. Il devait pas bouger, hein. Je pense pas. Et le laisser agir, le laisser agir. Est-ce qu'on laisse agir Dieu à notre place? Est-ce qu'on fait confiance? C'est ça, compter sur lui. C'est ça, ça veut dire compter sur lui, malgré le danger qui existe, malgré les épreuves, malgré les obstacles qui sont là devant nous dans la vie. S'appuyer sur lui, c'est ça. Comme cet homme qui a fait confiance à Charles. Et puis, faire confiance, avoir la foi, c'est aussi vivre ensemble. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, comme je vous avais dit. Et dans Hébreux, chapitre 11, le chapitre de la foi, on voit des personnages comme Noé, comme Enoch aussi. Et on voit comment on le présente, Noé, c'est héritier de justice. Enoch, lui, c'est encore plus intéressant, il était agréable. Il lui était agréable. Enoch, lui, était agréable à Dieu. Hein? Mais tout au long de sa vie, c'est pas faire confiance juste un petit instant. Lui, il lui a fait confiance juste en quelques instants. Mais avoir la foi en Dieu, c'est faire confiance tout au long de notre vie. Est-ce que nous sommes prêts vraiment à faire confiance tout au long de notre vie? C'est ça la vraie foi, malgré les circonstances difficiles. Garder la foi est vraiment important parce que sans la foi, oui, il est impossible de lui être agréable. Il y a aussi la repentance. Je vais bientôt terminer le message. Chapitre 2, Timothée 2, versets 25 et 26, j'aimerais vous lire. Je disais que sans la foi et sans la repentance, on ne peut pas vraiment expérimenter la présence de Dieu. Il doit, donc on parle de Timothée, il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. C'est intéressant. Dieu leur donnera la repentance. Ce n'est pas nous qui recevons ou qui faisons des efforts pour recevoir cette repentance. C'est Dieu qui doit agir par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Pour arriver à quoi? À la connaissance de la vérité. La vérité, c'est quoi cette vérité? C'est que Jésus est venu il y a plus de 2000 ans pour nous sauver, pour le pardon de nos péchés, et qu'il est mort, sacrifié pour nous, à notre place, et il est ressuscité avec nous. On a vu hier à la formation de baptême cette histoire, oui, très important. Nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Notre manière de vivre, ancienne manière de vivre, est mort complètement et qu'une nouvelle créature est née, comme cette résurrection du Christ. La repentance n'est pas du tout un remords. Les remords, on peut avoir des remords. D'autres, plein de personnages bibliques ont eu des remords, mais ils n'ont pas vraiment connu la repentance. Judas Iscariote, qui a vendu Jésus, avait aussi eu ce remords après avoir vendu Jésus. Mais il n'a pas connu cette repentance. La repentance, c'est vraiment vivre selon la volonté de Dieu, recevoir le pardon de Dieu et être un avec lui pour expérimenter cette puissance de Dieu. Je résume un peu. On a vu donc l'histoire de quatre brancardiers qui a apporté avec foi ce paralytique. Et puis on a vu aussi que Jésus, en voyant leur foi, il a non seulement accordé la guérison, mais aussi le pardon des péchés, qui permet d'avoir le salut éternel, la vie éternelle. Que nous puissions vraiment tous expérimenter durant notre vie cette présence de Dieu, cette puissance de pardon de Dieu tous les jours de notre vie. En préparant ce message, je me suis dit, c'est vrai que nous, les chrétiens, on est là le dimanche matin pour écouter la parole de Dieu. Mais on oublie tellement vite le message. Vous avez remarqué ça? Hein? Est-ce que vous vous souvenez de la parole qui a été prêchée il y a 2 semaines? Ou il y a 3 semaines? La semaine dernière, bon, Dominique l'a rappelé. Hein? Mais ce qui est important, c'est que une fois que nous avons reçu cette parole, il serait vraiment important aussi de se souvenir et peut-être vouloir faire des efforts pour mettre en pratique. Au moins 2 fois. Non? Hein? Moi, je me suis dit que après avoir prêché la semaine dernière sur l'importance de ramener les personnes et aussi d'évangéliser, je me suis dit, d'abord, il faut commencer par la prière. Hein? Je vous avais prêché cela. Et cette semaine, j'ai pensé à des différentes personnes pour que ces personnes-là soient touchées lorsque je leur parlerai de Parcours Alpha. Là, cette semaine, je vous invite aussi, je vous lance un défi, de faire confiance à Dieu totalement, hein, même si, dans les moments de difficulté, même dans les moments de joie, lui faire confiance comme cet agent qui a fait confiance à son... Voilà, comment on s'appelle ça? Un agent est... bon, bah, cet artiste, voilà, artiste. ouais. Est-ce qu'on arrive vraiment à faire confiance totalement, à avoir la foi en Dieu, pas juste une croyance? Important. Parce que notre vraie foi se révélera dans les moments les plus difficiles. Est-ce que nous avons vraiment la foi dans les moments les plus difficiles? On a entendu ce matin cette femme qui a perdu son mari brutalement, et on a vu sa foi, on a vu la reconnaissance malgré les difficultés. Il y a aussi tout à l'heure, il y a aussi Mary qui est là, mais qui a perdu son mari aussi, mais dans ces moments de difficulté, elle se réjouissait parce qu'elle savait où son mari était dans la présence de Dieu. Dans les moments de les plus difficultés, est-ce que nous avons cette foi en nous et que nous sommes aussi prêts à expérimenter ce pardon de Dieu tous les jours de notre vie? Bien sûr, nous sommes justifiés une fois pour toutes, mais tous les jours de notre vie, nous devons aussi expérimenter ce pardon de Dieu, cette puissance de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et que nous puissions aussi expérimenter cette guérison physique, mais aussi guérison intérieure que ce paralytique a bien connue. Et soyons aussi comme ces brancardiers. Parfois, nous voulons nous approcher de Dieu et parfois, il y a des obstacles, il y a des personnes qui sont autour de nous. Il y a des barrières qui nous empêchent d'aller vers ce Jésus, notre Sauveur. Bravons cette difficulté. Hein, et essayons de trouver une solution pour que nous puissions rencontrer et faire des efforts aussi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vous invite à la prière. Merci encore pour ta présence ce matin. Nous voulons te dire que, oui Seigneur, sans ta grâce, nous ne pouvons rien faire. Et nous t'implorons avec humilité de nous accorder ta grâce. Seigneur, oui, si nous manquons de foi, tu as dit de demander, Seigneur. Nous voulons vraiment que tu nous remplisses et de cette foi inébranlable. Et nous savons aussi que cette foi vient de ce que l'on entend, et de ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Aide-nous vraiment aussi à persévérer dans la parole de Dieu pour que cette foi nous remplisse, pour que cette confiance en toi grandisse davantage et que nous puissions être, oui, toujours accompagnés de ta présence, de cette sérénité, cette paix que tu peux nous apporter aussi, Seigneur, à travers cette foi inébranlable. Sois avec nous et que durant cette semaine, oui, nous puissions expérimenter cette foi inébranlable et aussi ce pardon des péchés. Aide-nous vraiment à avoir une vie de repentance pour que notre vie devienne plus mature en Christ. Et s'il y a des obstacles, que nous puissions vraiment braver tous ces obstacles grâce à toi, Seigneur. Grâce à cet objectif d'atteindre toi, notre Seigneur, pour expérimenter ta présence.
Merci encore de ce que tu as pu nous parler. Aide-nous vraiment à nous souvenir aussi cette parole. Aide-nous aussi à faire des efforts pour être dans ta présence. C'est au bon nom de Jésus que nous te prions. Amen.